Le journal, Hélène Roussel.
Bonjour. Non coupable, la défense du cardinal Barbarin, condamné pour ne pas avoir dénoncé les actes pédophiles du père Prénat. L'archevêque est devant la cour d'appel de Lyon. Nous sommes sur place dans un instant. Barrage de camions dans le nord, à la frontière avec la Belgique ce matin. Les routiers contre la hausse du prix du gazole, comme un tour de chauffe avant jeudi prochain. Marseille, les municipales, deux candidats à droite pour un fauteuil. Martine Vassal, investie hier par les Républicains. Et Bruno Gilles, qui ne lâche rien.
Je suis depuis 40 ans dans ma famille politique. Je pense que j'ai jamais trahi. J'ai fait le job à Marseille comme au niveau national. Moi, mon combat de ma vie, c'est le combat pour la mairie de Marseille. Et donc, moi, je veux être maire de Marseille.
Dans l'actualité encore, le temps de l'accompagnement pour les familles dans les régiments après la mort de 13 soldats au Mali. Reportage à suivre du côté de Pau. Trump soutient les pro-démocraties d'Hong Kong. Pékin voit rouge. Les Français de plus en plus nombreux à venir travailler, même malades. Et puis la fin peut-être d'un long récit. Corneille a-t-il écrit les pièces de Molière? L'intelligence artificielle à la rescousse et la réponse à la fin de ce journal. Le 13h, vous avez le menu, bienvenue.
France Inter.
Retour au tribunal donc pour le cardinal Barbarin. Pour ne pas avoir dénoncé les agressions pédophiles du père Prénat, l'archevêque de Lyon a été condamné en mars dernier à 6 mois de prison avec sursis. Mais le cardinal n'en démord pas, il n'est pas coupable. Le voici donc devant les juges de la cour d'appel de Lyon. Jean-Philippe Degnaud, le cardinal est venu crier son innocence ce matin à la barre.
J'ai fait ce que j'ai cru bon devoir faire, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai l'impression d'avoir agi clairement devant ces juges d'appel, comme devant le tribunal en janvier dernier. Le cardinal Barbarin explique inlassablement que s'il n'a pas saisi la justice en 2010, lorsqu'il reçoit la première dénonciation, c'est parce qu'il savait que les faits étaient prescrits. En revanche, se félicite le prévenu, j'ai saisi le pape parce que dans le droit canonique, on peut faire tomber la prescription. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait. La prescription, notion juridique au cœur de ce procès en appel, donc prescription des agressions sexuelles du père Prénat d'une part, et prescription du délit de non-dénonciation imputé au cardinal Barbarin, puisque ses avocats estiment qu'il ne peut pas être condamné dès l'instant où la justice a été saisie en 2015, 5 ans après la première dénonciation, alors que la prescription est de 3 ans. « Je n'arrive pas à voir en quoi je suis coupable », insiste le cardinal, tandis que le président promet que la cour prendra tout le temps d'écouter ce que chacun voudra dire, et notamment 8 des victimes du père Prénat, assises au premier rang dans la grande salle d'audience. Lyon, Jean-Philippe Degnaud, France Inter.
Et le résultat du jugement, sans doute pas avant plusieurs semaines. On en saura peut-être davantage aujourd'hui sur ce qu'a dit Michel Fourniret à la juge d'instruction hier pendant 3 heures. Pour l'instant, rien ne filtre, mais c'est bien la première fois en 17 ans qu'un suspect est formellement mis en cause dans la disparition d'Estelle Mouzin. Après les agriculteurs hier, les routiers aujourd'hui, barrage filtrant ce matin à la frontière belge près de Lille et dans le Valenciennois, des dizaines de camions mobilisés et des routiers qui protestent contre la hausse d'une taxe sur le gazole, entre 600 et 700 euros de plus par an par véhicule selon les syndicats, et qui promettent de revenir jeudi prochain. Jeudi prochain, et de la route au rail, même pagaille. La SNCF anticipe une forte, très forte mobilisation à partir de jeudi 5 décembre, la grève contre la réforme des retraites, et a, par précaution pour les usagers, fermé le guichet, plus aucun billet en vente du 5 décembre jusqu'au dimanche 8. Résultat, Maxime Debs, bonjour.
Bonjour.
Résultat, tous les trains affichent complet sur le site de la SNCF.
Oui, une mesure d'anticipation, ni plus ni moins, à la SNCF, on assure que c'est la procédure habituelle avant tout mouvement social, en gelant ainsi les réservations sur plusieurs jours. L'objectif est simple, permettre aux usagers d'être déjà munis d'un billet, d'avoir une souplesse d'accès à un autre train plus tard si le leur venait à être supprimé en raison de la grève. Pour les voyages TGV et intercités du 5 au 9 décembre, nos clients pourront en outre échanger leur billet de train ou faire une demande de remboursement sans frais ni surcoût, y compris pour des tarifs non échangeables, non remboursables, précise la SNCF. L'entreprise qui promet aussi la plus grande réactivité pour que les usagers puissent au mieux s'organiser le temps du mouvement. Des points réguliers seront effectués tous les soirs à 17h pour les 2 jours à venir. Les clients ayant laissé leurs coordonnées seront contactés par SMS pour les informer de la circulation de leur train.
Maxime Debs, merci. À une semaine des manifestations manifestation. Le Premier ministre a tenté une opération déminage hier sur le calendrier. D'abord, fin de la concertation pour le 9 ou le 10 décembre, présentation du projet au Parlement pour le début de l'année prochaine. Ensuite, concession notamment à la CFDT sur la prise en compte de la pénibilité dans la fonction publique, avec une mise en œuvre aussi de la réforme sur ses retraites un peu plus étalée sur 10 ou 15 ans. Pour le reste, Édouard Philippe se dit déterminé à instaurer un système universel avec la suppression des régimes spéciaux. La méthode du bulldozer, ont dénoncé les syndicats. La zizanie ne sera pas que dans la rue. Cette mobilisation contre la réforme des retraites pose un problème au Rassemblement national. Toute la gauche appelle à défiler, ça c'est clair. La droite fait dans le nini, ni soutien aux grévistes, ni soutien au gouvernement. Mais le RN, lui, est sur une position bien plus ambiguë. Si Marine Le Pen ne sera pas personnellement dans les manifestations, en revanche, elle souhaite que certains cadres de son parti y soient, ce qui a tendance à faire grincer des dents. Maxence Lambrecq.
Personne n'a encore officiellement annoncé sa participation au défilé. Chacun a plutôt l'air de chercher une excuse, à commencer par le sénateur Stéphane Ravier.
Écoutez, le 5 décembre, j'ai une journée déjà très chargée. Je n'aurai pas le temps d'aller manifester, mais je soutiens. Je lui conseille, moi, à cette France, de se mobiliser les 15 et les 22 mars. C'est des urnes que peut sortir et que devra sortir le changement.
Ce sont les élections qui règlent les problèmes, et pas la rue, renchérit Louis Alliot. Je n'irai pas aux côtés de ceux qui manifestent avec des islamistes, tacle l'euro. Député Nicolas Bay, drôle de mélange, s'agace un autre élu, rien de tel pour relancer en coulisses notre clivage droite-gauche. Marine Le Pen reçoit tout de même le soutien de Sébastien Chenu, mais le député du Nord prend ses distances avec les organisateurs.
Oui, non, mais moi je ne me manifeste pas aux côtés de la CGT. La CGT est un ectoplasme syndical qui a appelé à voter Macron, est aujourd'hui un figurant parmi d'autres.
De quoi s'assurer un bon accueil alors qu'il a déjà été bousculé par des militants CGT à Valenciennes l'an dernier. Sébastien Chenu se veut au-dessus de la mêlée.
Il ne s'agit pas d'une manifestation pour défendre les régimes spéciaux, c'est complètement ridicule de dire cela, quand bien même on pourrait en parler.
Marine Le Pen aimerait supprimer certains régimes spéciaux, mais elle évite d'en faire la liste, car là aussi, cela diviserait ses troupes.
Et aujourd'hui, le RN n'est pas seulement divisé, il est menacé. L'État a réclamé hier 11 millions d'euros au parti, soupçonné d'être au cœur d'un vaste système de financement illégal. L'affaire remonte aux législatives de 2012. Plaidoirie dans ce procès à suivre aujourd'hui. L'enjeu pour le parti est crucial. 11 millions d'euros, ce serait sans doute la banqueroute. La politique encore. Deux candidats sont dans un bateau. Qui tombe à l'eau? La droite façon puzzle à Marseille. Hier soir, le parti Les Républicains a choisi d'investir Martine Vassal pour mener la bataille des municipales. Mais l'autre candidat, Bruno Gilles, s'accroche. Pas question d'arrêter sa campagne, même pas peur d'entrer en dissidence.
Je suis depuis 40 ans dans ma famille politique. Je pense que j'ai jamais trahi. J'ai fait le job à Marseille comme au niveau national. Je veux dire, quand on n'a pas le soutien de son parti politique, c'est qu'à un moment, il faut appeler un chat un chat. On est quand même lâché par sa famille politique. Néanmoins, le combat continue. Moi, dès demain, je continue la campagne.
Vous êtes maintenant un dissident.
Je suis un homme libre. Moi, mon combat de ma vie, depuis le 13 septembre 2018, c'est le combat pour la mairie de Marseille. Et donc, moi, je veux être maire de Marseille.
Bruno Gilles avec Cécilia Arbonnat. Et voilà, le maire sortant, Jean-Claude Gaudin, qui veut siffler la fin de la récré. Il faut, dit-il, obéir au parti.
Bruno Gilles, bien sûr, hier soir, devant l'écart du vote, puisqu'il est très en faveur de Madame Vassal, par rapport à Bruno Gilles, a des réactions que l'on peut peut-être sur le plan humain comprendre. Mais enfin, c'est un homme politique averti.
Donc vous l'appelez à se retirer?
Je l'appelle à se retirer. Laissons passer les fêtes. Moi, j'aurais souhaité qu'il veuille rester au Sénat. Et il dit, je veux pas, je veux être le maire. Mais en fait, les sondages, c'est en faveur de Madame Vassal qui a le vent en poupe. C'est elle qui est dans le courant.
Jean-Claude Gaudin, ce matin, chez nos confrères de France Info, maire de Marseille depuis 24 ans, il va donc, quoi qu'il arrive, passer la main, mais il laisse derrière lui une ville pleine d'ardoises. Deux rapports de la Chambre régionale des comptes épinglent sévèrement sa gestion. École délabrée, finances publiques dégradées, gestion parfois illégale du personnel. Des rapports scandaleux, dénonce Jean-Claude Gaudin. Un geste du CROUS et du ministère de l'Enseignement supérieur pour lutter contre la précarité étudiante. Les loyers dans toutes les résidences universitaires vont être gelés l'année prochaine. Communiqué publié ce matin, un gel qui représente dans les 6 millions d'euros. Les arrêts maladie, souvent accusés de creuser le trou de la sécu, et pourtant voilà une donnée à contre-courant. 65% des salariés sont venus travailler l'an dernier alors qu'ils étaient malades. 28% des arrêts maladie ne sont pas respectés par les salariés. Étude annuelle Malakoff-Médéric sur l'absentéisme dans l'entreprise, ou devrait-on dire sur le présentéisme, car le nombre de salariés qui renoncent à s'arrêter malgré la feuille signée par le médecin sont, Laurent Kramer, de plus en plus nombreux.
alors qu'ils devraient respecter un arrêt maladie. 65% des salariés déclarent venir travailler. Le nombre d'arrêts maladie non respectés par les salariés a ainsi progressé de près de 10% en seulement 2 ans. Ce présentéisme, malgré la maladie, est clairement devenu un phénomène en expansion, souligne Anne-Sophie Godon, auteure de cette étude pour Malakoff Médéric.
Le présentéisme, ce sont effectivement ces salariés qui sont malades, mais viennent travailler. La moitié des salariés qui refusent leur arrêt maladie regrettent leur décision a posteriori. Ils sont plus fatigués, mettent du temps à se rétablir et puis aussi peuvent contaminer leurs collègues.
Peur de renvoyer une mauvaise image en entreprise. Les salariés soulignent souvent un choix économique. Ils renoncent à leur arrêt maladie quand l'entreprise ne prend pas en charge l'intégralité de leur salaire.
Donc oui, le niveau de prise en charge financière par l'entreprise a un impact sur le risque d'absence. Pour l'entreprise, c'est le risque finalement d'avoir des salariés qui cacheraient des symptômes plus importants qu'on ne détecterait pas.
Ce présentéisme maladie, souligne l'étude, avec près de 30% d'arrêts maladie non respectés, doit devenir un nouvel indicateur social des salariés en difficulté.
Laurent Kramer, et c'est aussi une étude à lire en détail sur notre site franceinter.fr. Journée tendue à Belfort, General Electric présente son plan social. On sait déjà que plusieurs centaines d'emplois sur le site de turbines à gaz sont concernés. Et puis en bref encore, les centaines d'employés de Thomas Cook, en redressement judiciaire, devrait savoir à quel patron se vouer. Décision cet après-midi du tribunal de commerce de Nanterre sur la reprise de la compagnie.
France Inter, le journal de 13h, Hélène Roussel.
13h11, après les premiers hommages, le temps de l'accompagnement des familles. 13 soldats morts au Mali lundi dans la collision de 2 hélicoptères. Le 5e régiment de combat de Pau paye un lourd tribut, 7 victimes. Et depuis hier, l'armée, comme les communes alentours, s'organise pour épauler les proches. C'est un reportage de Faustine Calmel.
C'est d'abord au sein même du régiment, comme un refuge, que les familles viennent chercher réconfort et conseil. Un lieu leur a été dédié, des fleurs blanches déposées devant les portraits de ces 7 conjoints, fils ou pères, explique le lieutenant-colonel Flambry.
On a transformé notre salle d'honneur en salle de veillée, dans laquelle il y a un environnement avec les représentants de culte, le psychologue, les commandants de compagnie qui sont à leur disposition. Et ensuite, on les accompagne dans leur besoin d'en savoir ou de connaître.
Raconter autant que faire se peut ce qui a eu lieu lundi soir aux confins du Mali, du Niger et du Burkina, aider aux démarches administratives, tenter d'apaiser le chagrin. Et puis ce matin, l'école reprend pour les enfants des soldats tués et leurs camarades. Vincent Pomereau propose des ateliers musicaux à Mazerolles, suivis par le petit garçon d'une des victimes. Le sujet devra être abordé et les réactions décortiquées.
Auprès des enfants, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir faire preuve de patience et de tact. Le mieux, c'est de ne pas trop aborder de front le sujet, laisser les enfants peut-être en parler et rebondir un petit peu. De toute façon, le traumatisme sera là. On va essayer de le restreindre à son minimum.
C'est seulement après l'hommage lundi aux Invalides, estiment certains proches, que le temps du deuil pourra s'installer.
Un reportage Faustine Calmel. La mort de ces 13 soldats relance aussi les questions sur l'intervention française au Mali. Il faut plus d'implication des alliés sur la lutte contre le terrorisme au Sahel, a dit Emmanuel Macron ce midi. Le président de la République recevait le Norvégien Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, après avoir dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Il fallait un wake-up call, il fallait réveiller l'OTAN. Emmanuel Macron qui assume totalement donc ses propos. Le consulat iranien en flammes et au moins 16 manifestants tués par les forces de l'ordre. La ville de Nasiriyah dans le sud de l'Irak, bastion de la contestation sociale, est aujourd'hui sous couvre-feu. Et des commandants militaires ont été envoyés pour chapeauter les gouverneurs de la région. À l'étranger, toujours en pleine guerre commerciale avec la Chine, Donald Trump apporte son soutien aux manifestants pro-démocratie de Hong Kong. Le président américain a promulgué une loi hier, insupportable, abominable pour Pékin. Les précisions de Nathalie Charbonnier.
Il a hésité, il a même attendu quelques jours, mais au final, Donald Trump a signé le texte en émettant toutefois quelques réserves. Ce texte prévoit que les États-Unis vérifieront une fois par an l'autonomie de Hong Kong. Il prévoit aussi des sanctions contre ceux qui seraient accusés de violation des droits humains. Il prévoit encore l'interdiction d'exportation de certains équipements anti-émeutes. Une signature qui n'a toutefois pas été une évidence pour le président américain, coincé entre d'un côté des élus américains déterminés et dont Donald Trump Trump a besoin, empêché qu'il ait dans son affaire d'impeachment, et de l'autre les autorités chinoises avec lesquelles il tente d'aboutir à un accord commercial. Aussitôt rendu public, cette signature a engendré les protestations attendues de Pékin, avec menace à la clé, mais là encore, il s'agit pour la diplomatie du président chinois de ménager son turbulent adversaire américain, car si l'accord commercial est attendu par Donald Trump, il est tout autant souhaité par la Chine. Conséquence, on crie, on gesticule de tous les côtés, mais il faudra attendre encore un peu pour voir sur le terrain la véritable incidence de la signature du décret américain.
Nathanaël Charbonnier. Travailleurs du SAMU social, de l'Armée du Salut, du Foyer Notre-Dame ou de la Fondation Abbé Pierre, tous dans la rue cet après-midi à Lyon. Le collectif Hébergement en danger dénonce les nouveaux critères imposés par le préfet du Rhône pour accéder à l'hébergement d'urgence. Des critères jugés illégaux. Reportage signé Rémi Brancato pour France Inter.
Face à un système saturé et un délai d'accès à l'hébergement de 12 mois, le préfet du Rhône a décidé d'agir avec désormais trois catégories de sans-abri prioritaires. Les femmes enceintes de plus de 6 mois, les personnes gravement malades et les familles avec enfants de moins d'un an. Problème pour Laura, travailleuse sociale dans un centre d'hébergement. Les autres seront exclus.
À partir du moment où l'enfant a plus d'un an, un an et un mois, ils ne feront plus partie de cette priorisation-là. Un enfant de un an et un mois ne devrait pas être à la rue et être en danger à la rue. Mettre en place des critères de vulnérabilité. Aujourd'hui, pour nous, ça nous semble totalement illégal.
Alors pour Arthur, du collectif Hébergement en danger, ces critères vont à l'encontre de sa mission.
C'est complètement inédit en France, en fait, ces nouvelles dispositions. Moi, je suis travailleur social, je suis pas là pour expliquer aux gens qu'elles auront jamais le droit à un toit et que je peux juste leur apporter un duvet, en fait.
De son côté, Clément Vivès, le secrétaire général adjoint de la préfecture, confirme les nouvelles consignes, mais pour lui, elles n'excluent personne.
Personne ne sera poussé à la rue. L'accent a été mis sur la priorité de ces publics-là. En aucun cas, une exclusion des dispositifs de personnes qui ne rentreraient pas dans telle ou telle situation.
Les critères figurent pourtant bien sur une convention d'hébergement des personnes mises à l'abri que nous avons pu consulter. Ce n'est qu'un document de travail, nous répond la préfecture.
La préfecture qui promet de recevoir une délégation dans l'après-midi. Nouvelle opération d'évacuation d'un camp de migrants à Paris, porte d'Aubervilliers. Cette fois, 300 migrants sur place, des forces de l'ordre et des bus. Mais la préfecture se défend. Il s'agit d'une maraude qui se répétera à cet endroit toutes les semaines. À terme, le gouvernement l'a dit, le camp sera démantelé. Et si le papa du Cid était aussi celui de Sganarelle ? En d'autres termes, Corneille aurait-il écrit les pièces de Molière ? C'est une rumeur qui court depuis longtemps avec une théorie. Molière, comédien, metteur en scène, amuseur du roi, grand courtisan, n'avait pas le temps de tenir aussi la plume. Aujourd'hui, Sophie Becherel, fin du chapitre, peut-être grâce à la technologie. Deux jeunes chercheurs français ont fait appel à l'intelligence artificielle. Leur réponse publiée dans Science Advance.
Ils sont médiévistes, mais leurs outils d'étude sont les statistiques et les algorithmes. Pour intéresser leurs étudiants de l'école des chartes à leur discipline, la philologie computationnelle, Florian Cafiero et Jean-Baptiste Camp se sont dit « et pourquoi pas la controverse Corneille-Molière ». Sans idée arrêtée sur le sujet, ils ont commencé à appliquer leurs outils mathématiques au corpus de textes des deux écrivains et la conclusion s'est avérée plus tranchée que prévu, explique Florian Cafiero.
À aucun moment, sur aucun des critères que l'on étudie, grammaire, vocabulaire, rime, mots-outils, préfixes, terminaisons, etc., à aucun moment il y a ne serait-ce qu'une ressemblance ou une confusion entre la langue de Molière et la langue de Corneille.
La comparaison a même été plus loin car les capacités de calcul actuelles ont permis de prendre en compte des textes rédigés par d'autres auteurs.
Il y a des auteurs qui seraient éventuellement, linguistiquement parlant, un peu plus proches de Molière que Pierre Corneille. Parfois c'est Scarron, parfois c'est le frère de Pierre Corneille, Thomas Corneille, qui était aussi dramaturge. On s'appuie aujourd'hui sur ces outils avec une confiance non négligeable et avec un recul assez important qui nous permet d'être un petit peu plus assertif aujourd'hui qu'on l'aurait pu l'être dans des études antérieures.
Est-ce la fin de la controverse ? Les deux chercheurs n'y croient pas, tant le sujet déchaîne les passions. Ils disent cependant avoir tenté d'apporter une méthodologie et un résultat solide pour ceux qui n'auraient pas encore d'avis tranché.
Lui aussi déchaîne les passions. Autre genre, mais une plume, là aussi, et surtout une voix et une guitare.
Write me down easy. Write me down easy free. Tonight the western stars are shining bright again.
Bruce Springsteen, en concert comme si vous y étiez. Western Star, documentaire signé du chanteur pour accompagner la sortie de son album en juin dernier. Pas de tournée donc, mais un film. Diffusé ce soir, et que ce soir, dans 150 cinémas de France, à 20h tapante pour le rendez-vous avec le boss. Allez, c'est l'heure de jeter un œil sur le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt.
le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
De la pluie et encore de la pluie, Elodie Calac.
Un ciel d'averse au programme sur la plupart des régions. Quelques éclaircies appréciables de temps en temps, mais surtout beaucoup de nuages avec des averses, parfois un orage. Du vent jusqu'à 50 à 70 km à l'heure, jusqu'à 110 sur les Caps Corses. Il neige sur le Massif central et les Alpes du Nord autour de 1400-1500 mètres. Près de l'océan, là, les rayons de soleil sont vraiment très rares. Les averses sont plus nombreuses. On trouvera des éclaircies un peu plus belles entre le Languedoc-Roussillon et la vallée du Rhône. Du soleil sur la Côte d'Azur. Les températures sont douces, 12 degrés à Lille et Strasbourg, 13 à Paris, Angers, 14 à Lyon, 15 degrés à Bordeaux et Toulouse, 17 à Nîmes, 19 à Bastia. Encore beaucoup de nuages et un petit peu de pluie demain. Ce sera plus lumineux vers la Nouvelle-Aquitaine et vers la Méditerranée.
Et c'est la fin de ce journal de 13h. Il est 13h20, raccourci en raison d'un appel à la grève lancé par plusieurs organisations syndicales de Radio France. Bouleversement aussi dans nos programmes. Bel après-midi avec nous sur France Inter.